Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie du magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Merci à vous tous qui venez de nous rejoindre sur la fréquence de la paix. Merci à tous les internautes qui nous écoutent sur www.radiocapi.net. Que faire pour lutter contre les incendies, prévenir surtout les incendies à répétition à travers le pays? Nous recevons Monsieur Martin Kanombedi, expert en sécurité et prévention des incendies. Bonjour Monsieur Martin.
Bonjour Monsieur.
Bienvenue dans cette émission. Nous allons également recevoir l'ingénieur John Ngabu Kabwidi-Widi, expert en prévention et secours des incendies dans les bâtiments. Vous voulez participer à cette émission? Le standard est déjà ouvert. Composez le 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Toute l'équipe est en place pour vous servir. Alain Goy à la mise en onde, Tati Mapoukoua sur la réalisation de cette émission, Marcel Ngombo à la coordination, Jody Daniel Keshama au micro. Excellente condition d'écoute de cette deuxième partie du magazine au Capi Service.
L'actualité en profondeur sur Radio Capi, c'est dans Grande Interview. Des questions politiques, économiques, sécuritaires et tout ce qui touche au vécu des Congolais sont abordées avec les acteurs qui font l'actualité et les spécialistes. L'actualité évolue et nous aussi. Toute l'équipe vous donne rendez-vous tous les samedis à 10h05, dimanche à 11h05 et mardi 14h15.
Bienvenue encore une fois dans cette deuxième partie du magazine de la vie au quotidien. Nous allons parler à présent des incendies. Les cas d'incendie sont de plus en plus fréquents à Kinshasa ainsi que dans d'autres provinces du pays. Le feu se propage rapidement à cause des dégâts et cause des dégâts matériels importants, faute d'un dispositif anti-incendie efficace. Le dernier cas en date est celui du lycée Mwanga de Kolwezi qui a plongé de nombreux internautes en émoi. Des vidéos ont circulé sur Internet montrant des enfants pris de panique en train de sauter du premier étage du bâtiment scolaire en feu. Généralement, lorsqu'un incendie se déclare, la population se débrouille avec du sable ou de l'eau pour éteindre les flammes. Alors, que faire pour prévenir les incendies à répétition à travers le pays? Et c'est possible d'avoir dans chaque ville un service anti-incendie doté des camions et autres matériels d'intervention rapide. Voilà, nous allons échanger avec nos invités autour de ces questions. Monsieur Martin Kanombedi, encore une fois, ravi de vous retrouver, de vous accueillir dans cette émission. Vous êtes expert en sécurité et prévention des incendies. Alors, la première question est de savoir quelles sont les causes des incendies. Qu'est-ce qui explique qu'on enregistre beaucoup plus de cas d'incendies à travers le pays?
Bonjour Jody, bonjour tes chers auditeurs de Radio Capi. Permettez-moi Jody de présenter d'abord mes condoléances à toutes les familles des personnes perdues lors de les noyades et de l'éboulement qui s'est fait il y a quelques jours à Bukavu, je crois.
À Calais,
oui, merci beaucoup.
Donc, Il y a eu des inondations.
Revenons à la question. Quelles sont les causes premières d'incendie? Les causes sont multiples. On peut en épingler quelques-unes. La première des causes, c'est la négligence. La négligence du fait qu'il y a des facteurs favorisants. Par exemple, quelqu'un qui utilise une bougie et qui dort. La négligence du fait qu'il y a certains combustibles qui ne peuvent pas être conservés dans des endroits comme le carburant qui ne peut pas être conservé, qui devrait être conservé dans un endroit approprié. Il y a aussi le manque d'information, les séances de sensibilisation pour informer à la population ce qu'il devrait et ne pas devrait faire. C'est aussi important. Et de cela aussi, il y a d'autres facteurs qu'on ne peut pas gérer parce que l'incendie peut être d'origine criminelle. Ça peut aussi être d'origine accidentelle. Donc il y a plusieurs facteurs qui favorisent, qui permettent à ce que nous puissions avoir un incendie.
Voilà, il y a des incendies d'origine à cause de la négligence, vous avez dit. D'origine criminelle et d'autres causées par quoi?
Il y a d'origine criminelle, c'est aussi un accident, ça peut arriver. Oui, et puis après ça c'est manque d'information, manque d'encadrement, la négligence, il y a plusieurs facteurs qui entrent
ça, ça peut aussi provenir des installations électriques défectueuses, tout
exactement, ça c'est le manque d'information et manque de formation également. Vous avez une compétence avérée, par exemple un électricien, mais vous vous improvisez électricien pour faire des connexions hasardeuses avec le courant qui va en dents de scie, cela pourrait occasionner également un incendie.
Vous avez sûrement suivi ce qui s'est passé au collège Mwanga dernièrement, où on a vu des images des élèves en train de sauter, pris des paniques, en train de sauter du premier étage du bâtiment scolaire en feu. Et les bâtiments étaient presque détruits. Bon, le camion incendie d'une compagnie minière est venu pour éteindre le feu. Alors, pourquoi l'intervention vient toujours de manière tardive?
Déjà, ce problème d'incendie de cette école, c'est l'une des raisons qui puisse me faire sortir de mon silence après avoir fait mûre réflexion. Au fait, le camion incendie ne viendra jamais avant qu'il y ait un feu. Sinon, il y aura déjà des suspicions. On aurait affaire peut-être à des pompiers pyromanes. Le camion vient exactement lorsqu'il y a incendie. Le problème qui se pose là, c'est au niveau de pouvoir se dire, est-ce que l'information est arrivée à temps auprès de personnes, donc des pompiers? Est-ce que les pompiers sont équipés? Est-ce que les pompiers sont dans la zone concernée? Parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire là-dessus. C'est comme si, pour donner un exemple, vous prenez un véhicule en bonne marche avec toutes les conditions et vous donnez à une personne qui ne sait pas conduire. En ce moment-là, il y a un souci, vous n'allez pas vous déplacer. Donc le problème, ce n'est pas souvent les sapeurs-pompiers, mais c'est aussi souvent les conditions dans lesquelles ils se retrouvent et les moyens qui sont mis à leur disposition. Et aussi, il y a un problème également de formation et d'information.
Mais qu'est-ce qu'il faut pour avoir, par exemple, des services anti-incendie dans chaque ville du pays?
C'est justement la raison pour laquelle nous sommes en train de faire le plaidoyer. Nous ne voulons pas personnellement traiter le problème par les conséquences. Nous devons commencer par la racine même. La racine, je sous-entends les états généraux de la protection civile. Les états généraux de la protection civile permettraient de définir exactement quelles sont les prérogatives, quelle est la situation qu'il y a sur au pays et comment quadriller ou cartographier tout le pays. On ne parle pas en termes de casernes de pompiers par ville, mais les casernes de pompiers sont définies en fonction de la densité. La densité fait que l'on peut définir quelle zone avoir une caserne pompier, qu'est-ce que l'on doit avoir comme équipement. Tout cela dépend de la densité. Je donne un exemple rapide. La commune de la Gombe, constituée essentiellement des bureaux et quelques des habitations, la densité de la population étant celle qu'elle est, elle est différente avec la commune de Maluku ou la commune de Lancélé. L'accessibilité et le besoin est différent. Donc, la cartographie du pays doit être faite afin que nous puissions parler en termes de casernes de pompiers.
Bien, donc il y a plusieurs facteurs qu'il faut. Par exemple, ici à Kinshasa, il y a le service anti-incendie qui est rattaché à la ville, où on retrouve des policiers. Mais si vous passez dans leur bureau, vous trouverez beaucoup de véhicules en panne ou qui ne fonctionnent plus, qui sont où il n'y a pas des pièces, tout ça. Donc c'est un service, on a l'impression qui n'a pas assez de moyens pour son fonctionnement.
Justement Tati, voilà pourquoi nous ne faisons que le plaidoyer de l'état généraux, les états généraux de la protection civile. Lorsque on parle en termes de commander des véhicules pompiers, mais on devait commencer la chose par le début. Aujourd'hui, le métier de sapeur-pompier est une profession des personnes qui sont certifiées. Il y a une académie, l'Académie de la protection civile, qui forme des sapeurs-pompiers. Et le sapeur-pompier n'est pas seulement pour l'incendie. Le sapeur-pompier est un professionnel pour intervenir dans tous les cas d'urgence. Il peut y avoir des cas d'accident de circulation, on appelle un sapeur-pompier. Il y a un cas d'éboulement, on appelle un sapeur-pompier. Il y a un cas d'un bâtiment qui s'écroule, on appelle les sapeurs-pompiers pour sortir les éventuelles victimes ou rechercher ceux qui sont les survivants. Il y a un cas d'incendie, on appelle les sapeurs-pompiers. Il y a même des sapeurs-pompiers marins. On a le cas de noyade, on appelle les sapeurs-pompiers. Donc, À notre niveau, nous pensons qu'on devrait commencer d'abord par instituer, établir à l'académie, le collège de la protection civile, et ensuite de là, on aurait des personnes formées, aguerries, et ensuite on parlerait des équipements. Mais lorsque nous avons des équipements, plusieurs fois la protection civile ou les corps de sapeurs-pompiers de la municipalité a reçu des dons il y a plusieurs années, le souci est à ce niveau-là. Lorsque l'on parle d'un don, le don ou bien l'achat, cela doit être suivi par quoi? Il y a l'équipement, il y a la formation, il y a la maintenance, il y a le suivi, et tout doit être dans un package qui permettrait à ce que les pompiers fassent leur travail.
Est-ce qu'il existe déjà une école des sapeurs-pompiers ici chez nous?
En RDC, il n'existe pas une école des sapeurs-pompiers. Cependant, il existe certaines institutions, certaines personnes, certaines compagnies privées qui donnent des formations. Or, aujourd'hui, dans le monde actuel, il existe bel et bien. Pour vous donner un exemple, au Sénégal, c'est depuis 1960. Au Mali, c'est depuis 1973. Donc aujourd'hui, le métier de sapeur-pompier est un métier certifié. Donc quand on devient sapeur-pompier, on a une certification reconnue mondialement. Donc on ne peut pas du jour au lendemain se réveiller parce qu'on manipule un véhicule, parce qu'on sait comment utiliser une lance, on devient sapeur-pompier. Non, c'est une profession à part entière, avec des qualifications requises et des normes qui sont établies, mondialement reconnues. Donc, avoir une académie de la police, c'est vraiment de sapeur-pompier, c'est vraiment le vœu le plus cher que j'ai.
Est-ce que pour être un sapeur-pompier, il faut d'abord être policier ou pas?
Cela dépend maintenant de l'orientation que le gouvernement pourrait donner. Sous d'autres cieux, par exemple en Côte d'Ivoire, le corps de sapeur-pompier dépend de la direction de la défense civile. Donc, il dépend du ministère de la Défense. Ce sont des militaires. Quand vous allez au Sénégal ou bien au Mali, cela dépend du ministère de l'Intérieur via la police. Donc, ici, le corps de sapeur-pompier dépend du ministère de l'Intérieur. Ce sont des choses qui devaient être définies. Donc, de l'autre côté, il y a un tronc commun. On forme les militaires pendant 6 mois, 9 mois, dépend. Mmh. Et puis, il y a ceux qui vont faire la profession militaire ou police, et à ceux qui vont aller du côté sapeur-pompier avec toutes les filiales qu'il y a dans sapeur-pompier. Parce que souvent, comme je l'ai dit, les gens, en parlant de sapeur-pompier, on ne voit que le feu. Or, le sapeur-pompier, ce n'est pas seulement le feu.
Voilà, ce n'est pas seulement le feu, mais les cas d'incendie se répètent à travers le pays. Vous avez dit qu'il faut les états généraux de la protection civile, mais dans chaque ville, qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple, à Bukavu, vous allez par exemple dans la commune de Kadutu, où les maisons sont presque entassées, collées les unes les autres, construites dans des conditions déplorables. Dès qu'un incendie se déclare chez le voisin, c'est fini, c'est tout toute la rangée, le pâté des maisons qui partent en feu.
Le problème, cher Tati, Jody, c'est que les mêmes causes produisent les mêmes effets, et toute chose restant égale par ailleurs, lorsqu'on a déjà ce que l'on a ici sur place, il faudrait qu'une étude bien établie soit faite. Voilà pourquoi la raison d'être même des états généraux. Parce que dans ces états généraux, on aura affaire à tous les services impliqués. Pour avoir une bonne gestion de la chose publique, du problème d'incendie, c'est toutes ces institutions dont nous parlons dans les états généraux qui vont mettre la main dans la pâte. Là, nous avons affaire au service de l'urbanisme et habitat, nous avons les services de la population, nous avons le ministère de la Santé, les ministères de l'Intérieur. Toutes ces personnes mises ensemble pourraient réfléchir pour des moyens spécifiques par rapport à chaque territoire. Voilà pourquoi je dis, on ne pourrait pas réfléchir en termes d'une caserne de pompiers par ville ou bien par commune, mais cela est spécifié en fonction de la densité, de la nature, de la géographie même de l'entité qui devait être couverte.
Bien, on va accueillir Roger Marcel de Kinshasa. Que faire pour prévenir les incendies à répétition en République démocratique du Congo? Roger Marcel, bonjour.
Bonjour monsieur Jeudi et bonjour à notre invité.
Quelle est votre question?
Ouais. Monsieur, moi, je trouve qu'à ce secteur, vraiment, l'État congolais ne se donne pas. Parce que nous, quand nous regardons dans notre pays, il y a plusieurs cas qui se passent, mais ces gens-là arrivent toujours en retard. Parce qu'à Kinshasa, on a connu ça dernièrement, ici à Limété, il y avait un immeuble qui était vraiment en feu. Il y a eu même des cas là qui s'est passé même au niveau des bonhommes. J'ai entendu l'invité qui disait on ne peut pas avoir des véhicules qui doivent être tout prêts avec au moment où l'action passe. Mais on pouvait être même comme dans notre ville de Kinshasa, si dans 26 communes, si l'État avait au moins prévu dans chaque commune qu'on puisse même avoir même un véhicule, qu'on puisse un peu avoir un peu ces postes-là aux alentours de chaque commune, ça pouvait quand même aider à chaque action. Lorsque ça se passe comme ça, on appelle que ces gens-là puissent être plus prêts pour intervenir. Parce que ce que nous voyons vraiment à Kinshasa, vraiment, c'est terrible. S'il n'y a pas la Monisco, donc ces gens-là arrivent vraiment en retard. Regardez même ces gens-là qui sont même engagés. Ils ont, dans quelle façon ils sont payés. Il y a autant de mois qui passent sans toutefois être payés. L'État ne se donne pas à ce domaine-là. Mais si ça se passe comme ça dans Kinshasa, mais dans d'autres provinces, ça se passe comment? Je pourrais encore demander à notre invité, il a parlé un peu des affaires papiers, c'est dans plusieurs domaines. Mais nous, dans notre pays, on voit toujours les affaires papiers qui se donnent, qui sont vraiment focalisées dans le domaine d'intervenir toujours dans des incendies. Mais dans d'autres domaines, on ne les voit pas. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des privés dans ces domaines-là qui sont aussi habilités aussi, qui peuvent aussi aider l'État? Parce qu'en regardant aussi notre État, il a déjà failli à ces domaines-là. S'il y a aussi des privés, ils peuvent aussi se donner à ces domaines-là pour aussi aider aussi à ces gens. Si on a aussi des cas comme ça, un privé qui vient aussi intervenir, qui a aussi ses matériels, lorsqu'on appelle, qui vient plus vite possible et puis ces cas qu'il puisse aussi intervenir le plus vite possible.
Bien, merci Roger. Marcel, pour vos préoccupations, Monsieur Martin, qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Oui, merci Roger d'être intervenu. D'abord, j'aimerais rappeler encore que les véhicules pompiers ne peuvent pas être positionnés en fonction des communes. Il y a une cartographie qui est faite. Lorsque nous sommes dans des pays organisés, normalement, on donne un espace de terrain pour un lotissement. Et de cet espace de terrain est défini les nombres d'habitations et les activités qui vont se dérouler. Je prends un exemple, la zone économique de Maluku. Cette zone économique va avoir en son sein des usines, des bâtiments qui seront à usage purement économique. De là, avant que l'on puisse construire, on fait appel aux ingénieurs qui viennent. Pour ceux qui sont de l'électricité, ils vont faire passer les câbles électriques. Pour de l'eau, on fait appel également aux spécialistes du feu, les sapeurs-pompiers, qui vont venir évaluer ce qu'on va mettre sur cette étendue. On calcule la densité et on calcule également quel type d'intervention on peut avoir en ces lieux. C'est en ce moment-là.
Et on voit même dans certains bâtiments, on écrit, on indique qu'il y a une flèche qui indique zone de rassemblement.
Oui,
ça veut dire qu'en cas de feu, tout le monde peut venir rapidement là-bas.
Oui, là c'est l'aspect où l'on parle de mesures où il y a déjà un feu. Comment évacuer la population, évacuer les personnes qui sont dans un building. Donc quand vous avez tout cela, c'est pour permettre comment évacuer les personnes qui sont victimes ou qui sont atteintes d'un incendie. Mmh. Mais cependant, les casernes de pompiers ne sont pas mises par commune ou par ville, mais c'est en fonction de la densité de la population, de la géographie même de l'endroit. Et comme je l'ai dit, les états généraux devraient même parler de cela. Monsieur Roger a parlé du paiement de toutes ces personnes. Toutes ces choses devaient être discutées afin que les collègues pompiers qui travaillent pour la municipalité de Kinshasa, qu'ils puissent réellement connaître quel est leur statut. Ils sont fonctionnaires de l'État, ils sont militaires, ils sont agents de l'État. Toutes ces choses devaient être discutées. Dans sa deuxième question, il dit, est-ce que les privés pouvaient aider? Oui et non. Mais cela doit être défini exactement par les états généraux. Parce que le métier de sapeur-pompier, comme je vous le dis, aujourd'hui, c'est un métier qui est considéré comme métier à risque et cancérigène. Ça veut dire une personne sapeur-pompier peut attraper facilement les cancers venant, si pas de la fumée qu'il est en train d'inhaler, mais même des débris et des détritus que nous avons qui peut se coller dans ses habits et produire même du cancer à la personne. Donc c'est pas un travail.
Il y a des vêtements, des protections et les dispositifs qui existent.
Exactement. Il y a ce que nous appelons les équipements de protection individuels. Mais cela n'explique pas le fait que le métier reste toujours en danger. Pour vous donner juste un exemple rapide, après chaque intervention, la tenue doit être mise à lavage à sec. Pour éviter exactement que la personne ne soit contaminée. Et s'il y a une intervention qui survient dans les minutes, il prend une autre tenue. Donc, les métiers est régi par des normes. Voilà pourquoi je parle de l'Académie de la protection civile. Il y a des normes qui doivent être suivies. Aujourd'hui, dans notre pays, ce sont des personnes qui sont des volontaires, qui ont été formés sur l'État et qui font le mieux qu'ils peuvent. Et pour la plupart, nous voyons, on intervient sans appareil respiratoire. Or, une personne qui intervient doit avoir un appareil respiratoire pour lui permettre de pouvoir se sécuriser elle-même et sécuriser sa santé.
Voilà, donc vous en appelez à la mise en place d'une académie.
Je ne cesserai de le rappeler.
De formation des sapeurs.
Nous commençons par les états généraux et de l'état généraux va en découler l'académie des sapeurs-pompiers ou de la protection civile. Et de là, nous aurons des professionnels qui seront mis dans toutes les provinces et dans les 145 territoires en fonction de la densité, de la géographie, du besoin même et du poids incendie. Parce que le poids incendie était calculé en fonction de l'usage même d'un véhicule, d'un bâtiment. Un bâtiment à usage public, un bâtiment comme une école, un bâtiment comme un bureau, un bâtiment comme une église ne sont pas sécurisés de la même chose sur le plan anti-incendie.
Bien. Alors, une autre question est de savoir, est-ce qu'il est important pour prévenir les incendies qu'il y ait dans chaque bâtiment, dans chaque maison,
les extincteurs.
Parce qu'il y a, je vois à Kinshasa par exemple, il y a des services anti-incendie qui circulent dans les sociétés qui disent non, il faut acheter, il faut avoir un extincteur, etc.
Donc, j'aimerais mieux restructurer la question. Il y a quatre éléments qu'il faudrait prendre en compte par rapport à la prévention. Il y a d'abord, en anglais on dit the fire detection and alert system. Donc, il y a d'abord le système de détection. Donc, avant de parler d'un incendie, il faudrait, avant de parler d'un extincteur plutôt, il faudrait qu'il y ait un système de détection. Il est recommandé que dans tout bâtiment public ou bâtiment privé, qu'il y ait un système de détection d'incendie. Ce système de détection n'est pas nécessairement de sophistiquer, aller avec des sprinklers, mais c'est pas un système qui peut être à utiliser avec une pile de 9 volts. Il y en a sur le marché. Et lorsqu'il y a détection, il y a maintenant l'alerte. L'alerte est lancée et c'est là où on rejoint les pictogrammes dont vous aviez parlé des lieux de rassemblement qui indiquent aux personnes qui sont dans le bâtiment quel chemin prendre pour se rediriger vers où. Et dans le cas où ils sont dirigés dans la zone de rassemblement, à ce moment-là, s'il y a un départ d'incendie, s'il y a des personnes qui sont formées également comment utiliser l'extincteur, on peut penser maintenant à l'extinction de feu. Donc, il est important de détecter, d'alerter et ensuite, éventuellement, d'avoir un extincteur ou un autre moyen à disposition pour éteindre le feu.
Mais il est aussi important d'éduquer les gens comment se comporter quand il y a un feu qui se déclare dans un bâtiment. Par exemple, pour le cas du lycée Mwanga, on a l'impression que les enfants, c'était la panique et les enfants sautaient dans tous les sens.
Voilà pourquoi je ne cesserai de répéter tout le long de cette émission les états généraux. Dans les états généraux, nous avons besoin de la participation du ministère de l'Éducation. Parce que le ministère de l'Éducation sera en charge de la formation même. En commençant de la maternelle jusqu'au niveau des humanités, pour ne pas parler de l'université, il doit y avoir des notions de protection civile qui sont enseignées aux élèves et aux étudiants. Donc, chaque élève, chaque étudiant doit le savoir. Et même lorsque vous entrez dans un bâtiment, vous êtes engagé dans une société, vous devez connaître les plans d'évacuation de ce bâtiment, le plan d'évacuation de votre compagnie, en cas d'incendie, en cas d'alerte, en cas d'éboulement, en cas même de catastrophe naturelle, comment vous allez vous faire évacuer de votre bâtiment. Donc, c'est plus que nécessaire.
Donc, vous en appelez à l'organisation des états généraux de la protection civile. Ça, c'est important.
Nous n'allons pas commencer par résoudre le problème par leurs conséquences. Donc là, on va se dire, allons acheter des véhicules pompiers et puis on va venir. Mais qu'en est-il de ces compatriotes Wewa qui ont un accident en cours de route? Comment ils seront acheminés au lieu de où ils seront pris en charge? C'est le travail également de sapeurs-pompiers par le volet le service ambulancier national. Vous savez aujourd'hui que le sapeur-pompier compte en son sein le service ambulancier national qui est chargé de bien évacuer les victimes du lieu des désastres ou bien du lieu de l'accident vers la prise en charge. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont victimes de qui meurent ou soit sont paraplégiques du fait non de l'accident, mais du transport qui a été fait du lieu où il y avait l'accident jusqu'au lieu où ils seront pris en charge.
Jean-Pierre Amouteba nous écrit sur Internet, il dit qu'il y a, depuis Mweka, il y a répétition, il y a des incendies à répétition à cause de la négligence des autorités congolaises. Qu'est-ce que vous pouvez dire?
Négligence des autorités congolaises, oui ou non? Nous disons en jargon sécurité que la sécurité commence par vous-même. Aujourd'hui à Kinshasa, nous avons presque dans chaque ménage, par exemple, de bonbons de gaz. Donc, quelle sécurité vous-même vous vous donnez par rapport à la bonbonne de gaz que vous avez dans votre cuisine? Il est dit que la bonbonne de gaz devrait se retrouver à un endroit X pour éviter éventuellement des problèmes. Et si cette bonbonne prenait feu, vous devez savoir vous-même comment le faire. Donc, il y a la part de la population, mais il y a la part également de l'autorité. Et lorsque j'en appelle aux états généraux de la protection civile, je pense que là, c'était un appel lancé au ministère concerné de l'intérieur jusqu'au niveau de la présidence, mais par rapport à la sensibilisation et à se protéger, ça c'est un problème qui commence d'abord individuellement.
Bien, Maître Bernard nous a écrit depuis Kananga. À mon avis, pour prévenir et réduire la fréquence des incendies, nous demandons au gouvernement central et ainsi que provincial de donner des terrains aux Kadhafi pour qu'ils aillent placer leurs produits, les carburants, afin d'éviter la perte en vie humaine et des dégâts matériels importants. Les revendeurs des produits pétroliers localement doivent suivre ces mêmes instructions, d'étaler les produits, de placer leurs produits loin des personnes. Et sur ces, l'État congolais doit s'impliquer en créant plusieurs services anti-incendie et multipliant dans plusieurs entités afin de réduire la fréquence des incendies dans les milieux urbains et ruraux. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Il y a un problème. Le problème, c'est qu'il y a la part du gouvernement et la part individuelle. Il y a une loi qui régit le transport, le stockage, l'entreposage de produits pétroliers. Même si aujourd'hui on prenait les dépôts de tous nos compatriotes Kadhafi et vendeurs, on les mettait dans un coin où il n'y a personne, le produit doit être manipulé par certains individus. Donc si la loi qui régit le transport, l'entreposage, le déplacement, la manipulation des produits pétroliers n'est pas suivie et l'État ne met pas sa main pour savoir que cela est fait, il y aura toujours des incendies. Mmh. Parce que si ces personnes devraient exposer des quantités de produits pétroliers sans surveillance à des températures élevées et avec une négligence, il y aura toujours un problème. La part de l'État, c'est de faire respecter la loi et de répondre. Au fait, le besoin, ce n'est pas d'avoir d'incendie pour répondre. Le besoin, c'est d'éviter l'incendie. Et s'il y a incendie, de réduire au maximum les dégâts qu'il peut y avoir. C'est ça la raison d'être même de pompier.
Bien, nous parlons des incendies, de la prévention. Comment prévenir les incendies en République démocratique du Congo? Des questions et préoccupations, appelez au 081 890 63 94.
Vous voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers, un espace vous est réservé. Samedi dimanche, de 9h à 10h, heure de Kinshasa, Radio Kapi reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicace@radiocapi.net et demandez une chanson et nous nous ferons le plaisir de vous faire plaisir.
Comment prévenir les incendies en République démocratique du Congo? Bienvenue, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, quelle est votre question?
Oui, bonjour, je dis bonjour à tout le monde.
Allez-y.
Comment prévenir les incendies? Je prends l'exemple de Kinshasa où il y a tant d'embouteillages. Admettons que les installations anti-incendie soient implantées dans tous les districts, dans toutes les communes, mais avec tout ce qu'il y a comme embouteillage, est-ce qu'il y a toujours les moyens de réduire les cas d'incendie? Parce que si les camions anti-incendie se plongent dans les embouteillages, la bonne volonté qui pourrait être pour aller sauver l'immeuble qui s'est déclaré en fait, comment on va procéder dans ces conditions-là? Bon, j'ai une autre question que j'allais poser. Qu'est-ce qui fait que il n'y ait pas des installations anti-incendie installées dans toutes les communes au moins? Peut-être à cela on pourrait réduire tant soit peu les conséquences que les incendies causent.
Merci, bienvenue de Kinshasa. Monsieur Martin.
Oui, c'est exactement la problématique que nous voulons au travers des états généraux de la protection civile. Les embouteillages font partie de ce que nous allons étudier dans le cadre de la densité même de la population. Comme je l'ai dit, il y a une zone, par exemple, économique de Maluku. Je ne pense pas qu'il y aura assez de monde par rapport à Kingasani, par exemple. Donc, les services de pompiers doivent s'adapter même à la ville. Et plus la densité est forte, plus le besoin est là. C'est par rapport à cela que l'on définit maintenant les casernes de pompiers. C'est pas par rapport aux communes, par rapport aux quartiers, c'est par rapport à la densité et le besoin. Il y a un petit calcul qui est fait, c'est le calcul qu'on appelle le poids incendie. Un immeuble qui est utilisé comme école n'aura pas la même protection comme un bâtiment qui est utilisé pour édifice à usage public, église ou école ou même hôpital ou un dépôt de carburant. Ça peut avoir la même superficie, mais la protection sera différente. Donc voilà un peu ce que je peux dire là-dessus.
Quelqu'un parlait tout à l'heure des les Kadhafi, ceux qui vendent les produits pétroliers. Parfois, ils exposent les autres, ils ont entreposé des produits dans de mauvaises conditions, dans un dépôt quelque part, et facilement, quand il y a le feu se déclare, c'est compliqué. On n'arrive pas à éteindre ce genre de feu qui se propage rapidement.
Exactement. Normalement, une personne qui exerce une telle activité devrait au minimum s'informer et se former sur comment éviter les incendies. Et si malheureusement il y a, quel serait son apport? Ça c'est de un, parce que j'ai dit que la sécurité commence d'abord par vous-même. Lorsque vous vous engagez dans cette activité, vous devez respecter les normes et entrer au transport, entreposage, stockage et vente même des produits pétroliers. Et ensuite, de l'autre côté, il y a le gouvernement qui doit mettre qui doit avoir les structures mises en place pour réduire les dégâts. Comme je le dis, le sapeur-pompier travaille d'abord en amont pour sensibiliser les personnes sur les risques, mais aussi pour réduire les dégâts qu'il peut y avoir, parce qu'il y a déjà un incendie, il faut au moins réduire les dégâts qu'il y a. Avec comme le compatriote bienvenu, je crois, parler des embouteillages, c'est exactement la problématique. Donc, si vous avez une caserne de pompiers, par exemple, à Kitambo Magasin, pour aller vers Pompage, et s'il faut prendre seulement Zela Maï, vous comprenez ce qui se passe.
C'est compliqué.
Donc, voilà ce que je dis, que c'est par rapport à la densité qu'on étudie maintenant où on doit placer les casernes de pompiers avec tous les services annexes. Quand vous êtes dans une zone de Maloku, je n'en parle beaucoup, mais là, il peut y avoir il y a des noyades. On doit avoir des sapeurs-pompiers marins. Quand vous êtes dans une zone où il y a beaucoup de Kadhafi, il doit y avoir des sapeurs-pompiers avec le matériel et l'équipement adéquat. Parce qu'un sapeur-pompier qui va intervenir pour un feu de carburant, il doit avoir l'équipement et le matériel adéquat qui est différent de l'équipement et du matériel qu'il pourrait utiliser en cas d'un feu dans un bâtiment des archives.
Pourquoi? Parce que ces feux sont différents.
Exactement.
L'intensité
parce que
n'est pas la même.
Je ne parle pas en termes d'intensité d'abord, mais je parle en termes de type de feu. Il existe plusieurs types de feux. Par exemple, lorsque vous avez un feu qui vient de combustible liquide, en ce moment-là, on n'y verse pas de l'eau directement. On verse un mélange d'eau avec les émulsifiants qui permettraient à ce qu'on puisse non seulement ralentir la propagation du feu, mais maîtriser également. Cependant, si vous avez un feu qui prend dans une bibliothèque où nous avons les combustibles solides, en ce moment-là, on peut utiliser directement de l'eau. Mais quelqu'un qui travaille dans un service là où il y a les serveurs, par exemple, il y a des ordinateurs, il y a tout ce qu'il faut préserver, lorsque vous allez utiliser de l'eau, vous allez faire plus de dégâts. On peut utiliser aussi de la poudre. Ça va permettre d'éteindre le feu, mais d'essayer de préserver le maximum.
Il y a une mousse spéciale aussi qu'on utilise.
Exactement. La mousse est utilisée pour les feux de combustible liquide. Mais lorsque vous avez une salle de serveur et que vous voulez at least préserver les équipements après avoir éteint le feu, on utilise de la poudre. Vous voyez que ça permettrait de maîtriser le feu, mais au puis aussi de voir dans la mesure du possible comment réparer.
Voilà, tout cela exige une formation. La population, parce que je pense que c'est une formation qui peut être à la portée de tout le monde.
Voilà pourquoi dans les états généraux, nous avons besoin que le ministère de l'éducation puisse prendre part, parce qu'il y a un programme spécial qui devrait être enseigné de la maternelle jusqu'aux humanités. Un enfant de la maternelle devrait savoir quels sont les premiers gestes de secours. Celui qui est déjà aux humanités devrait savoir comment utiliser un extincteur, ou encore si son enseignant tombait, et comment il devait mettre l'enseignant dans une position, par exemple, latérale de sécurité. Ce sont des notions qui devraient être apprises à l'école.
Voilà, ce sont des notions à prendre, qui devaient être prises à l'école. Que faire pour prévenir les incendies à répétition en République démocratique du Congo? Appelez-nous pour participer au 081-890-63-94. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Alors, par exemple, ce qui est arrivé à l'école Mwanga, les enfants étaient pris de panique, ils sautaient n'importe comment, et ça pouvait encore causer beaucoup de dégâts. Dieu merci qu'il n'y a pas eu des dégâts très, disons, il n'y a pas eu des pertes, beaucoup de pertes en vie humaine. Il semblerait qu'il y avait un enfant qui avait perdu la vie, etc. Mais c'est quelque chose de regrettable qui ne devait pas arriver. C'est les camions incendies est venu d'une compagnie minière. Pourquoi, par exemple, le gouverneur, chaque gouvernement provincial ne peut pas s'acheter des camions anti-incendie au cas où il y a un besoin, on peut intervenir directement.
Déjà la perte même d'une seule personne est de trop. Et surtout quand on a affaire à la perte d'un enfant, c'est de trop.
Oui, bien sûr.
Il y a la part de responsabilité, comme je l'ai dit, de l'État et de nous-mêmes. Lorsqu'on a une structure, un édifice à usage public comme une école, il devrait y avoir des exercices d'évacuation. En cas d'incendie, en cas de catastrophe naturelle, en cas d'éboulement, en cas de tremblement de terre, les enfants doivent apprendre comment être évacués. Quels sont les moyens d'évacuation? C'est quelque chose qui devrait être déjà défini et des exercices, des simulations devraient être faits. Voilà pourquoi nous parlons de la part de l'éducation nationale. Mais par rapport maintenant à comment alimenter les services des pompiers, la responsabilité est légalement partagée entre le gouvernement provincial, le gouvernement central, qui devrait avoir une politique même de la protection civile. Donc j'insiste sur, nous ne devons pas corriger par les conséquences, nous devons aller à la racine même. Donc nous commençons par la racine et de là, nous allons arriver à couvrir toute la République démocratique du Congo.
Mais si les gens se retrouvent dans un bâtiment, par exemple, à 2, 3, 4, 5 étages et qu'il y a le feu, comment se comporter?
En général, il faudrait qu'on comprenne la propagation du feu. La propagation du feu, elle est accélérée. Vous êtes un bâtiment de 3 étages. Nous supposons que le deuxième niveau est en feu. Le feu se propage d'une manière accélérée vers les hauteurs. Donc le troisième niveau sera le plus affecté. Le niveau parallèle dans lequel vous êtes, le deuxième niveau, sera encore moins. Et le niveau plus bas sera peut-être négatif. Donc il faudrait se rappeler toujours que lorsqu'il y a un incendie, même dans un bâtiment, même dans une salle, le feu a tendance toujours à aller vers l'hauteur, vers le plafond. Et vous aurez la fumée, elle sera dense vers le plafond. La zone la plus sécurisée où vous pouvez avoir un peu d'oxygène pour respirer, c'est vers le bas, vers le plancher. Donc déjà, on n'a pas à courir debout. C'est accroupi à genoux ou ramper parce que il y a encore de la chance d'avoir d'oxygène un peu plus bas. Et c'est là maintenant en amont où j'ai dit, lorsqu'il y a déjà un exercice d'évacuation, les personnes savent que s'il y a un problème, quel chemin utiliser. Déjà quand il y a un incendie, vous êtes dans un bâtiment à plusieurs étages, vous n'utilisez pas les ascenseurs. L'ascenseur n'est pas utilisé en cas d'alerte d'incendie. Vous utilisez les escaliers de secours ou les échelles de secours.
Pourquoi ne pas utiliser les ascenseurs?
Parce que l'ascenseur fonctionne en général. L'ascenseur fonctionne avec de l'électricité.
Et s'il
y a coupure, il faudrait que le sapeur-pompier formé avec l'équipement adéquat également sache qu'est-ce qu'il pourrait faire. Donc voilà pourquoi dans tout bâtiment, il doit y avoir non seulement les ascenseurs, les escaliers, les issues de secours, les échelles de secours, et les personnes occupant ces bâtiments doivent être formées des exercices d'évacuation, savoir comment le faire. En général, ne courez pas debout, n'avancez pas debout, accroupi, à genoux, rampez, c'est la zone où il y a encore des chances d'avoir un peu d'oxygène et allez directement vers le lieu d'évacuation. Voilà pourquoi vous devez, à chaque fois que vous entrez dans un bâtiment, vous poser la question, s'il y a un souci, par où je dois sortir?
Voilà, donc pourquoi il faut ramper, pourquoi il faut, oui vous avez dit à cause de l'oxygène, donc il y a certaines personnes qui peuvent mourir à cause de l'étouffement.
Je ne vais pas vous faire peur, mais sachez que ce qui tue une personne premièrement, ce n'est pas le fait qu'il brûle, mais c'est le fait qu'il soit d'abord suffoqué, il tombe en syncope et ensuite il peut brûler. Donc c'est cette fumée qu'il a inhalée. Pour les sapeurs-pompiers qui interviennent, mes collègues de la municipalité, qui interviennent sans appareil respiratoire, il y a encore un danger permanent parce qu'ils inhalent toute cette fumée qui est avec tous les produits toxiques et c'est pas un problème qui est uniquement en RDC. En 2001, lorsqu'il y a eu le 11 septembre à New York, il y a eu des sapeurs-pompiers qui sont morts. De cause de quoi? Inhalation de la fumée ou d'autres causes également. Donc, il faudrait savoir que la fumée, elle est toxique. La fumée, elle est dangereuse et c'est celle qui va vous tuer avant le feu.
Bien, on va accueillir Bertin de Fungurume, Charles et de Lumbashi. Bonjour Bertin.
Bonjour.
Quelle est votre question?
En fait, j'interviens juste avec une suggestion. En fait, en tant que partenaire de l'éducation, nous sommes en train de déplorer la façon que nous venons d'assister à ces histoires ici. Dans l'école, en fait, cette situation-ci ne pouvait pas arriver du fait que c'est là où il y a une source qu'on pouvait peut-être donner beaucoup d'enseignements sur ça, comme l'enseignement est en train de minimiser beaucoup d'histoires. Bon, je voulais aller tout droit au but. Moi, je pense que tout ça est arrivé par manque d'inspection. Le chef d'établissement, le professeur ou enseignant, ils n'ont jamais eu le temps, même quand ils entrent dans la classe, chercher à vérifier quel a été l'état de la classe en sortant de l'école, ils sortent comme ça. Vous pouvez entrer dans une classe, vous trouvez même des fils déjà dénudés, mais l'enseignant qui passe du jour au jour, ça c'est un problème. Et de deux, je voudrais qu'on puisse demander dans notre programme éducatif s'il faut insérer peut-être ces programmes ici, d'insérer les secours, le premier secours, comprenez. Parce que, et même s'il faut insérer, n'oubliez pas aussi de former aussi les personnels enseignants. Parce que la plupart de nos collègues, ils ne connaissent même pas la manipulation d'un extincteur. C'est vrai, il peut être devant un incendie, mais comment appliquer ça? Ça aussi, c'est un problème. Donc, nous devons aider vraiment notre partenaire éducatif de renforcer les capacités dans le milieu scolaire parce que c'est vraiment dommage. Et sont censés nous protéger parce que nous puisons beaucoup de connaissances et puis il y a certaines connaissances qu'elles devraient nous donner en première vie.
Bien, merci Bertin de Fungourou, mais Charles de Lubumbashi, bonjour et quelle est votre préoccupation?
Oui, bonjour Monsieur Jody, bonjour à toute l'équipe ainsi qu'à l'invité.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, je profite de cette occasion parce que ici à Lubumbashi, il y a un message qui est souvent si véhiculé ça et là. On nous dit que la causerie au téléphone à côté d'une station peut provoquer l'incendie. Moi, je ne sais pas le confirmer, alors je recours à notre invité, lui qui est expert dans le domaine, de pouvoir nous éclaircir quant à ça. Voilà un peu ce que je dis à vous l'antenne.
Bien, merci. Monsieur Martin.
Oui, je tiens à remercier Monsieur Martin qui pose la question sur le programme d'éducation. Je reviendrai toujours tout au long de cette émission que c'est les états généraux qui doivent définir exactement quelle est la part que l'éducation nationale devrait avoir dans le programme de sensibilisation. Et sous d'autres cieux, nous voyons non seulement qu'il y a un programme de premier secours, mais les pompiers également vont visiter l'école pour donner des exercices et des simulations d'évacuation et vice-versa. On voit également les élèves venir visiter la caserne de pompiers pour savoir un peu comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'ils peuvent faire en cas d'un souci. Donc, tout cela devrait être défini et puis exécuté à dessein. Parlant du téléphone, c'est tout à fait normal. Vous savez qu'il y a des ondes qui sont émises entre le téléphone et la station service également qui a non seulement les ondes, mais on utilise également l'électricité, je crois que c'est hydrostatique, il y a des termes qui, je vais y arriver. Mmh. Alors ça permet à ce qu'il peut y avoir des déclenchements, des étincelles et qui peuvent engendrer un feu. Donc voilà pourquoi il est totalement recommandé et indiqué de ne pas utiliser un téléphone lorsque vous êtes à proximité de la station de service et même dans certains endroits où il y a plusieurs fréquences utilisées.
Bien, donc à vous entendre, vous revenez tout le temps sur l'organisation des états généraux de la protection civile. Ça, c'est le ministère de l'Intérieur qui peut organiser ça. Est-ce que vous avez approché les services du ministère? Il y a quand même un service de la protection civile au ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous êtes rapproché des animateurs pour échanger autour de ce projet?
Oui, il existe une direction de la protection civile au sein du ministère de l'Intérieur. Mmh. Nous avons déposé une correspondance pour être reçu. C'est l'occasion pour moi de demander au ministre qui, par rapport à son agenda, de nous permettre de pouvoir le rencontrer et expliquer en long en large la quintessence même de notre projet. Donc, le problème, l'existence des textes. Il y a des textes, il y a l'application des textes, mais il y a aussi le fait que les textes sont des fois obsolète. J'ai le décret loi qui a été de 1996. Donc, vous comprenez, il y a l'autre décret de 86 également. Donc, tout cela devrait être mis à jour. Il y a le décret également qui parle du Conseil national de la protection civile. Mais lorsque vous regardez dans le décret qui parle de du Conseil national de la protection civile, il y a le point relatif à la prévention et la lutte à incendie qui n'est pas autant élaboré. Donc, tout cela permettrait, justement, dans ces états généraux, de pouvoir approfondir la question et avoir éventuellement des décrets, des lois qui peuvent mieux structurer la chose, ou pourquoi pas avoir une direction générale de la protection civile comme un service spécialisé qui dépendrait du ministère de la Défense ou encore du ministère de l'Intérieur.
Voilà, ça, c'est des choses qui peuvent être faites pour... n'est-ce pas, protéger, prévenir les cas d'incendie à répétition à travers le pays, pas seulement dans la ville de Kinshasa. Alors, souvent, quand il y a un incendie, c'est d'abord la panique. Les gens sont pris de panique. Vous trouverez une autre personne peut se sauver, mais doit revenir et pense aux enfants. Et les enfants sont dans telle chambre en revenant pour les sauver la vie des enfants. Bon, un malheur, elle peut se retrouver aussi... victime. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout cela?
La première des choses, comme je l'ai dit tantôt, une victime, elle est toujours de trop. Mais deux victimes, là, ça ne va pas. Donc, lorsque vous-même, vous ne savez que faire, vous pourriez devenir la deuxième victime. Donc, il faudrait d'abord, premièrement, préparer des exercices d'évacuation, même chez nous à la maison. Savoir que s'il y a un problème, par où nous devons sortir.
Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui connaît, un spécialiste qui va vous aider.
Et exactement, voilà l'objet même de sapeurs-pompiers qui travaillent dans l'option prévention. Dans la prévention, on forme les personnes. Qu'est-ce qu'ils devraient faire en cas d'incendie dans une maison? Vous avez les enfants,
mais pourquoi vous-même, vous n'ouvrez pas déjà un centre de formation dans ce sens-là?
Les centres de formation, il en existe également sous des cieux qui sont des centres privés. Permettez que je revienne également sur les états généraux, parce que les états généraux vont définir. Le métier de sapeur-pompier, c'est une profession qui est certifiée. Aujourd'hui, vous pouvez ouvrir une école de protection civile. Avec quelle certification? Est-ce qu'elle sera reconnue? Comment elle sera? Elle va fonctionner sur quel budget? Et après être certifiée, quelle sera l'issue de ces personnes certifiées? Sont-elles agents de l'État, de privé? Et lorsqu'ils vont intervenir, ils vont intervenir sur quel statut? Donc, il y a plusieurs points comme ça qui devaient être définis au sein des états généraux de la protection civile.
On va terminer cette émission avec la question d'Elias de Kinshasa. Bonjour Elias.
Bonjour monsieur le journaliste et bonjour à votre invité.
On vous écoute.
Oui, monsieur le journaliste, en tout cas, je vous ai pris à court de décision, mais ce que je pourrais contribuer dans cette émission est que, en tout cas, il faut sensibiliser aussi notre État à pouvoir aller dans le bon sens de pouvoir changer les choses. Le cours là où la thématique du jour, j'ai appris ça à l'école, à l'université. D'après l'OACI, il a décrit les normes, comment il faut intervenir lorsqu'il y a des cas d'urgence, voire même des détresses en aviation, et chaque fois qu'il y a un accident, comment il faut intervenir, tout ça. C'est très important. Mais ce que je ne suis pas vraiment d'accord avec l'invité est que l'invité veut simplement, ou encore veut à tout prix responsabiliser la population, alors que la population n'est pas informée. Monsieur le journaliste, quel est le rôle de l'État? C'est d'organiser, de gérer, de permettre à ce que les choses aillent dans la bonne voie. Souvent, ici chez nous, on intervient seulement en aval, c'est-à-dire on a eu déjà des problèmes, des dégâts, on a perdu, et après on intervient. Alors que dans la mesure où il faut intervenir en amont, il se pose un problème dans notre société. Alors, c'est là où je vais dire à l'invité que non, qu'il essaie au moins d'aller avec cette démarche jusqu'à la fin. Nous savons que dans notre pays, souvent quand on introduit des lettres, ça arrive des fois que ça reste une lettre morte. Alors, c'est un peu ça. C'est ça vraiment mon intervention. Merci beaucoup, M.
Merci, Elias, Monsieur Martin.
Oui, je ne tire pas à boulet rouge sur la population, mais je dis que les responsabilités sont partagées. La sécurité commence par vous-même d'abord. Lorsque vous achetez une bonbonne de gaz que vous placez dans la maison, vous devez savoir où la placer et comment la protéger. Je pense que ça, c'est de votre responsabilité. Et ensuite, maintenant, le gouvernement aussi est appelé de son côté à mettre à disposition de la population de l'information d'abord, informer la population et ensuite assister ou secourir la population dans le cas de besoin. C'est dans ce sens-là que je dis que les responsabilités sont partagées.
Bien, Monsieur Martin Kanoumbedi, expert en sécurité et prévention des incendies, merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, excellente semaine et à la prochaine.
Merci, c'est moi qui vous remercie.
Africa Mopimba. Tokangi maboko, tozali kotalae. Bana basili na kokende, bana basili na koteka mai na banguna. Tolati mokuya ata malobate. Congo na Panafrika maleli. Afrika mabimpae, tokangi maboko, tozali kotalae. Bana basili na kokende. Bana basili na kote kamae na banguna. Tolati mokuya ata malobate. Kongo na Panafrika baleli. Oh, medi ben baka. Medi nzela na yo ya batonyonso. Medinzela na yo ya Lumumba. Medinzela na yo ya Che Guevara. Medinzela na yo ya Malcolm X. Medinzela na yo ya Umyope. Medinzela na yo ya Felix Mumie. Medinzela na yo ya Nguyen Van Choy. Medinzela na yo ya Tsoki. Medinzela na yo ya Camilo Cienfuegos. Medinzela na yo ya Oji ya Enda. Medinzela na yo ya Camilo Torres. Medinzela na yo ya Abdelkader. Medinzela na yo ya Koulibaly. Medinzela na yo ya André Machua.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission de La Vie au quotidien au Capi Service. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.